Bonjour de Rabat, où nous organisons pour la première conférence du RIFRES, le réseau international francophone pour la responsabilité sociale en santé. Il est vrai que nous avons travaillé avec les facultés de médecine francophones depuis un certain nombre d'années sur le sujet de la responsabilité sociale. C'est devenu une priorité. C'est vrai pour cette organisation qui est la CINMEF, dans le sens que chacun prend conscience de la nécessité de revoir la formation, la recherche et les services, bref, les mises sur la faculté de médecine au regard des besoins prioritaires de la société, considérant le contexte économique, politique et environnemental. Donc, c'est une priorité importante qui s'affiche progressivement dans la réforme des études médicales et dans le partenariat des facultés de médecine avec d'autres acteurs du système de santé, notamment évidemment les organisations sanitaires et les professions de santé. Et progressivement, le projet de responsabilité sociale des facultés de médecine s'est rendu compte qu'il fallait bien entendu travailler avec d'autres partenaires, ce qui a conduit à la création de ce nouveau réseau, le réseau international francophone pour la responsabilité sociale en santé et pas seulement dans les facultés de médecine. Donc les institutions académiques sont évidemment fondamentales, mais bien entendu les professions de santé de différentes catégories le sont également. Donc voilà, nous avons créé ce réseau dont le secrétariat général se trouve à l'Université de Montréal au Canada et nous avons un programme assez intéressant. Je m'arrête là très bientôt pour laisser la parole à Jean-François sur 5 axes. Le premier, c'est de pouvoir se former à la responsabilité sociale. Laisser entendre que même les directeurs, les doyens, les chefs de service ont besoin de mieux appréhender les principes et les méthodes. Deuxièmement, un grand intérêt pour l'accréditation, en essayant d'introduire les principes de responsabilité sociale dans les normes et dans les processus d'accréditation. Ensuite, un travail de partenariat avec des autres acteurs de santé dans un territoire, façon à voir comment la faculté de médecine peut avoir un impact sur les besoins prioritaires de santé. Et enfin, une activité de recherche, bien entendu, de façon à ce qu'on puisse répondre à des questions et dénué de toute idéologie, mais basé sur des indicateurs et sur des faits probants. Voilà où nous en sommes. Nous sommes fiers d'être ici, à Rabat, très bien accueillis par la faculté de médecine de Rabat, avec des représentants de 25 pays, dont des pays anglophones. Donc c'est une merveilleuse réussite. Et nous vous invitons tous à la prochaine conférence du RIFRES à Bruxelles, et je pense que ce sera un événement très intéressant et j'ai hâte de vous revoir tous là-bas. Je passe la parole à Jean-François Deneuve.
Merci, mais peut-être y a-t-il des questions à ce stade-ci.
Est-ce que tous ces éléments, ces documents et cette stratégie, on va avoir des éléments disponibles bientôt dans vos travaux que vous êtes en train de faire à Rabat?
Donc, il y a certainement déjà pas mal de littérature qui a été publiée, tant en anglais, dans les revues anglo-saxonnes, dans les revues francophones, que ce soit de santé publique, pédagogie médicale. Donc, au niveau de la vision, des concepts, etc., il y a déjà pas mal de choses qui sont faites. Maintenant, un des intérêts de ce genre de réseau et de cette réunion, c'est le partage d'expérience, partage de réalisation. Nous avons eu mercredi matin une journée où 14 facultés sont venues nous expliquer ce qu'ils faisaient déjà dans le cadre de la responsabilité sociale et quelles sont les initiatives qu'ils ont prises. Je pense que ça peut évidemment apporter. Un autre secteur sera que il faudra mettre en place des moyens de mesurer l'impact des activités et l'impact des projets. Et donc il y a un site de recherche. C'est pour ça qu'il y a un groupe recherche dans le réseau.
Est-ce que vous préconisez d'instituer des structures organisatrices comme les systèmes CARE au Canada pour mettre une impulsion à toute cette prise de conscience de la responsabilité sociale des universités?
Je ne sais pas si j'ai bien entendu ta question, mais je vais peut-être l'imaginer quand même. Les choses sont devenues assez sérieuses à partir du moment où a été publié ce qu'on appelle le consensus mondial sur la responsabilité sociale des facultés de médecine, qui est un exercice assez unique, qui a rassemblé des experts de tous les pays du monde, et en suivant une méthode Delphi, assez sérieuse, rigoureuse, a énoncé ce que c'était. Parce que il est vrai qu'il y a quelquefois des confusions sur le contenu du concept de responsabilité sociale. Donc ce document a décliné une dizaine de stratégies qui précisent précisément de quoi il s'agit. Nous avons présenté ce consensus il y a 7 ans à l'Assemblée générale des facultés de médecine de la CIDMEF, et en demandant si les doyens étaient intéressés à s'intéresser à ce consensus et voir dans quelle mesure ça pourrait influencer leur politique de développement. Nous avons été très étonnés par le fait que la moitié des facultés de médecine ont répondu positivement, dans le sens que le doyen nous a écrit une lettre, a désigné un référent et s'est engagé à couvrir les frais de participation du référent de la faculté de médecine. Depuis, nous nous réunissons tous les ans et il faut dire qu'il y a des déploiements extrêmement heureux qui se passent dans un certain nombre de facultés de médecine et sur lesquelles on pourrait capitaliser pour définir des politiques effectivement de santé relatives à la responsabilité sociale.
Alors si je peux ajouter quelque chose, ce qui me semble important dans ce réseau par rapport à la conférence des doyens, que ce soit la conférence internationale, la CIDMEF, ou des conférences canadiennes, françaises, etc., le réseau souhaite s'ouvrir à des professions de santé autres que la médecine. Et non seulement s'ouvrir à des professions de santé autres que la médecine, mais même s'ouvrir à des professions que la santé concerne, même si ce ne sont pas des soignants. Je pense à des économistes, je pense à des sociologues, etc. Ce matin, nous avons eu une conférence d'un juriste. Donc c'est ça une des particularités. On veut sortir du carcan faculté de médecine.
Effectivement, cette année, nous sommes reçus par une faculté de médecine, donc nous sommes à Rabat. Mais l'année prochaine, nous serons reçus pour notre prochain congrès à Bruxelles par une organisation de médecins praticiens généralistes. Donc évidemment, ça va ouvrir un peu le champ de nos réflexions et de nos partenariats.
On a eu comme ça il y a quelques années des comités d'éthique qui se sont mis en place, qui sont pluridisciplinaires comme cela. Est-ce que vous préconisez qu'on aille dans ce sens pour également la responsabilité sociale des universités, de mettre en place ces comités pluridisciplinaires dans les différentes universités?
Absolument, c'est tout à fait pertinent. Certaines facultés de médecine se sont même constituées en unité de responsabilité sociale proche au doyen et qui effectivement regroupe toutes ces questions d'éthique, de relations avec la société, le monde extérieur. Beaucoup de jeunes se sensibilisent effectivement à la préservation de la nature, à l'environnement, dans tous les termes, pas seulement écologiques, mais également politiques et économiques. Donc toutes ces raisons se rejoignent et effectivement, les facultés qui se seraient dotées d'un comité d'éthique seraient parfaitement bienvenues dans le réseau du RIFRES.
Et pour aller dans le même sens, et dans ce que j'ai déjà dit, le thème général du congrès de Bruxelles de l'année prochaine, c'est santé et développement durable. Donc non seulement en quoi le développement influence la santé, mais en quoi la pratique de professionnels de santé influence le développement. Donc on va dans les deux sens.
À cette occasion, effectivement, nous comptons interpeller le monde politique, car il y a quand même une dimension nationale et politique, le monde académique certes, le monde professionnel et la société civile. Donc c'est une aventure intéressante, très motivante, et je pense que vous auriez tout à fait une place l'année prochaine à Bruxelles.
Merci bien. Est-ce qu'on peut aller dans quelques exemples? Un des débats qui agite beaucoup la France actuellement, c'est la répartition médicale sur les territoires, avec des territoires dans les campagnes qui sont désertifiés par les médecins, avec des autorités qui voudraient mieux répartir cette démographie médicale. Et à côté de ça, il y a les jeunes qui ne veulent pas et qui font de la résistance en disant « nous, on veut s'installer où on veut, comme on veut » et c'est souvent dans les villes. Est-ce que vous avez envisagé des process spécifiques par rapport à des problèmes qu'on peut avoir en France pour essayer de trouver les bonnes cordes à tirer vis-à-vis de ces problématiques qui sont vraiment pas faciles à résoudre? Est-ce que...
C'est une notion fondamentale. Évidemment, en France, elle commence bien entendu à exister. Je dois dire que la faculté de médecine de Tours a une relation particulière avec la région du centre et du Val-de-Loire, puisqu'elle a pu réunir les différents acteurs de santé et même se définir une politique pour améliorer la couverture et l'accès aux soins de santé dans le territoire. C'est une donnée fondamentale, effectivement. C'est de pouvoir travailler avec différents acteurs et démontrer que l'institution académique, par ses actions, peut avoir une influence, effectivement, sur le développement de la région et, bien entendu, la santé.
Quelles sont les perspectives que vous voyez pour les années à venir de cette, si je vous dis le futur dans 5 à 10 ans, comment est-ce que l'on va booster cette responsabilisation sociale ou sociétale des universités?
Alors, les perspectives sont évidemment très larges. Il y a les perspectives au niveau du réseau lui-même, il y a les perspectives au niveau des facultés de médecine et puis il y a les perspectives au niveau des systèmes de santé. Donc je pense qu'un des éléments qui est clairement en train de poindre, c'est la démarche qualité, l'évaluation et l'accréditation. Alors il faut prévoir l'accréditation, non pas simplement à une réponse à un diktat des Américains qui ont décidé que, mais vraiment comme un levier de progression dans la qualité. Et si on prend le principe de l'accréditation qui est de vérifier si une institution ou une faculté répond à des normes, il faut d'abord définir des normes spécifiques de la responsabilité sociale. Et comme ça a été dit ce matin, ça ne doit pas être des normes implicites. Le piège, évidemment, c'est que tout le monde dit « ben oui, ben on en fait depuis tout le temps de la responsabilité sociale, puisque c'est notre rôle ». Non, passons à un plan explicite, définissons des indicateurs et des mesures de notre impact. Et après, mettons ça dans les normes d'accréditation des facultés de médecine ou des facultés d'autres professionnels, et on sera même obligé probablement de parler d'un pont entre l'accréditation des facultés, l'accréditation des hôpitaux et même l'évaluation des pratiques médicales. Le National Health Service est en train de développer un système d'évaluation des médecins généralistes. Donc quelque part, on va créer un continuum entre la formation et la pratique.
Ça peut marcher. Il y a des questions dans la salle, Patrick? Quel micro donner?
Ouais, c'est peut-être le mieux. Ouais.
Pas bon, son rien ne fait la recette.
C'est ça.
Oui, merci d'être en visioconférence avec nous. Et c'est vrai que ça nous rappelle quelque temps, puisque nous étions vus, c'était à la Maison des Universités, il y a quelques années, effectivement, et où on avait déjà parlé de responsabilité sociétale. Dans le cadre de la formation, quelle est la part, à votre avis, de la formation continue, de l'évaluation des pratiques, dans ce qui sera le système d'accréditation des facultés? Comment on peut juger de l'importance de cet item par rapport, par exemple, à la formation initiale ou à la recherche?
Comme je viens de le dire, vous m'entendez?
Oui.
Vous m'entendez?
Oui.
Donc, comme je viens de le dire, il faut prévoir qu'à l'avenir, il y aura un continuum entre la formation initiale, la formation en spécialité et la pratique. Donc ça veut dire la formation initiale, le troisième cycle, et la formation continue qui est le quatrième cycle. Et la responsabilité sociale s'applique à ce qu'on appelle le niveau macro, qui est la politique, les institutions, etc., méso, qui sont éventuellement le programme, mais micro, qui sont les individus. Donc quelque part, la responsabilité sociale n'est pas qu'un concept, c'est une attitude, c'est une démarche. Et donc au niveau individuel aussi, il faut quelque part garder, il faut continuer à souffler sur le feu pour que quelque part la passivité ne l'emporte pas. En plus, on a un problème que dans la mise en œuvre de réformes, la gouvernance est importante. Et donc la CIDMEF a maintenant depuis plus de 10 ans créé une formation des cadres qu'on appelle l'école des doyens. Mais ça doit être finalement le leadership. Je vous rappelle que si vous regardez l'approche par compétences et le programme CADMET 2015, les Canadiens ont introduit le concept de leadership dans les compétences de base. Donc quelque part, une formation au leadership, avoir une vision, être capable de faire adhérer ses collègues à cette vision, être capable de créer un travail interprofessionnel, travail en équipe, tout ça relève de la responsabilité sociale.
Maintenant, évidemment, quand on parle de responsabilité sociale, on est toujours intéressé à savoir si ce que nous faisons peut avoir un impact sur la société, les citoyens, évidemment, et l'environnement immédiat. Et il est relativement facile de réformer un programme de formation, y compris formation continue, sur les principes de responsabilité sociale. D'ailleurs, c'est en train de se faire déjà au Canada. Mais la question qui se pose, c'est, l'ayant fait cette formation de premier et deuxième cycle, et puis pour graduer, en quoi est-ce qu'un médecin formé deviendra socialement responsable? Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour lui? Comment va-t-il travailler? Va-t-il travailler seul, en équipe? Est-ce que ça concerne les médecins généralistes de première ligne? Est-ce que ça concerne les spécialistes? Donc c'est un questionnement, je pense, tout à fait logique, qu'il nous faudra poser. Et c'est l'intérêt de pouvoir travailler évidemment avec les associations professionnelles et se questionner sur quel est le rôle du médecin dans la société future, quel genre de délégation faudra-t-il faire avec d'autres professionnels de santé, est-il un référent de santé dans la communauté, à quel prix, comment, voilà les questions qui sont un peu la suite de la formation continue une fois qu'on rentre dans le vif du sujet.
Voilà, Evelyne Colli, donc je suis professeur, je suis pharmacien à la faculté des sciences de santé de Dijon et responsable de la formation continue pour tous les professionnels de santé. Je voulais juste vous dire que j'ai fait partie de CIT Pharmef quand j'étais doyen de la faculté de pharmacie et cette réflexion a été menée au sein de CIT Pharmef, mais je ne sais pas si vous êtes en relation avec le président qui est canadien, qui est québécois, pour poursuivre cette relation et notamment sur les relations interprofessionnelles. Voilà, c'était ma question.
Tout à fait. Il fut un temps où la conférence des doyens de la faculté de médecine et des doyens de sciences dentaires et de pharmacie se réunissaient effectivement physiquement autour d'une même problématique et il nous est arrivé d'animer quelques séminaires chez les pharmaciens la médecine dentaire. Mais il est vrai que ces liens sont distendus avec les facultés de pharmacie et ils se resserrent. Nous le voyons dans le monde davantage anglophone, non seulement de la formation, mais également de la précision du rôle professionnel du pharmacien de la société, mais effectivement dans le monde francophone, très peu. Donc ce serait notre grand vœu de pouvoir retravailler effectivement avec vous sur ces questions très fondamentales.
D'autant qu'il y a quand même des aspects de la responsabilité sociale qui touchent directement les pharmaciens. On voit bien l'évolution de la profession au Canada, etc., où le pharmacien devient un conseiller au patient et finalement accompagne le patient dans un certain nombre de démarches thérapeutiques. Un autre exemple qui est quand même assez criant, c'est ces nouveaux médicaments qui ont des coûts exorbitants et qui donc représentent un enjeu social majeur. Il y a maintenant des gens qui ne savent pas s'offrir les nouveaux médicaments tout simplement parce qu'ils sont trop chers. Et je ne parle pas évidemment des pays moins favorisés où l'accès aux soins de santé et aux médicaments pose un problème. Ne parlons que des faux médicaments.
Juste une petite dernière, parce que c'est vrai que par rapport à ce qu'on appelle ces biosimilaires, ces médicaments qui coûtent 1000 euros par mois, hein, qui sont inaccessibles à la plupart des pays, même en Europe, hein, bien sûr, et on a On est très étonné de voir que quelque chose qui devrait être naturel, c'est-à-dire qu'un médicament qui montre qu'il a la même efficacité, les mêmes effets secondaires et qui coûte 30% moins cher à des tels coûts, donc avec des économies telles qui peuvent être réinvesties dans l'innovation, la technique, le personnel dont on en demande tout le temps, eh bien, on a un énorme problème parce que ça fait maintenant 2 ans que sont arrivés ces biosimilaires et leur montée en puissance est très très lente et très difficile à mettre en place au point que les autorités mettent des incitations financières pour essayer de booster ce marché. Donc quelles sont vos réflexions par rapport à ça? Comment est-ce qu'on peut avancer mieux dans cette démarche d'économie qui paraît naturelle, qui paraît très naturelle? Le médicament c'est le même, il coûte moins cher, pourquoi ne pas le prescrire?
De là, Yves, effectivement, parce que c'est un problème tellement complexe qu'il nous faut l'aborder par différents angles, de là donc l'intérêt à pouvoir interpeller le pouvoir politique, académique, professionnel, et puis la société civile d'une façon générale, c'est effectivement une problématique qui ne pourra pas être réglée par un seul acteur. Donc c'était notre intention, effectivement, de pouvoir créer ces partenariats sur des problématiques aussi essentielles que celle-là.
Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, on en reste là. Mais en tout cas, merci beaucoup, malgré les problèmes techniques, le son a loin d'être optimal, c'était un peu difficile, mais on a réussi à communiquer quand même, et c'était vraiment très passionnant. Merci beaucoup.
Merci à vous deux.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.